du Trizac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Trizac.
Avec Alain Pronkin pour nous parler de religion. Alain, bonjour. Oh, ça prend du son là-dessus, ça va aller mieux. Alain, bonjour.
Est-ce que tu m'entends,
Benoît? Là, je t'entends,
oui, bonjour,
merci.
Bonjour, Benoît.
On va y arriver. Alors, tu veux nous parler d'abord du budget fédéral, Alain?
Oui, c'est ça. Parce que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on parle de religion dans un budget économique du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial. Pourquoi? Puis en plus, Benoît, on va jouer ensemble dans un bac à sable. C'est l'expression qu'il y a dans le budget.
Ah oui.
Donc, en page 83 du budget fédéral, on dit élargir l'accès aux prêts hypothécaires islamiques. C'est carrément spécifié dans leur projet de loi.
Ouais.
Et après, ils disent, on va voir la création d'un nouveau bac à sable. Là, j'ai dit que c'est quoi un bac à sable? Parce qu'un bac à sable, j'ai un souvenir personnel de ce que c'est. Et on dit tout simplement que c'est pour permettre aux entreprises d'expérimenter plus librement de nouveaux produits et services. C'est ça que ça veut dire, un bac à sable. Je dis, ça a changé avec mon époque. Alors, ce qu'on veut faire, c'est dire, bon, ben, il va y avoir des prêts islamiques, puis là, on va expérimenter ça. C'est beau, les prêts islamiques, mais là, je me suis posé la question, est-ce que les prêts islamiques vont être ouverts aux hommes et aux femmes? À qui ça va être ouvert? Quand on dit les prêts islamiques, quelles vont être les définitions? Ça veut dire, est-ce qu'on va prendre les prêts islamiques en Égypte, ceux en Arabie Saoudite, ceux en Algérie, on va prendre lesquels? Et qui va décider du bon prêt islamique?
Ouais.
Comment ça va gérer tout ça?
Ouais.
Mais ça, c'est des questions générales. Mais je voulais juste te rappeler une chose, Benoît, c'est que dans le judaïsme antique, les taux d'intérêt, c'est interdit. Chez les catholiques, c'est interdit jusque dans les années 1900. Parce qu'on disait toujours, si tu prêtes, c'est que tu prêtes à quelqu'un qui a moins d'argent que toi. Et Dieu est toujours symbolisé par celui qui est plus petit que toi, ainsi que Jésus. Donc, est-ce que tu vas charger des intérêts à Dieu, Benoît? Est-ce que tu vas charger des intérêts à Jésus? Non, tu peux pas. Donc, c'est interdit les taux d'intérêt jusqu'à dans les années 1900. Mais on avait trouvé un moyen d'aller contre ça. C'est qu'on disait, t'as pas le droit, un juif ne peut pas prêter intérêt à un juif, mais il peut prêter à un chrétien. Il peut prêter à un musulman. Et là, on avait bâti des systèmes. Mais aujourd'hui, moi, ce que je comprends pas, puis là, il va falloir appeler Michel Girard, ou encore Francis Gosselin. Ce que je comprends pas, c'est que en Arabie Saoudite, au Qatar, dans plusieurs pays musulmans, ils ont des taux d'intérêt. Si tu vas emprunter, tu vas payer des intérêts. Puis je vais te lire ça. En Algérie, là, j'ai rien compris. C'est pour ça que j'ai pas la tête à Michel Girard. Ils disent, les taux d'intérêt vont être moins contraignants pour les crédits à court terme et les crédits à moyen terme. Les taux d'intérêt seront respectivement de 8,06 et 7,53. Quant au taux d'intérêt excessif des crédits bancaires à long terme, il est fixé à 6,7. Là, j'ai rien compris, mais il faudrait demander. Mais il y a des taux d'intérêt. Mais là, j'ai posé la question. Ils ont des cartes de crédit. Mais là, on va faire quoi avec les cartes de crédit? Ce qu'on va dire, ça va prendre des cartes de crédit où il n'y a pas de taux d'intérêt. Parce que c'est une carte de crédit, ça prend un taux d'intérêt.
Et que dit la charia? Parce que là, ce projet de loi fédéral du gouvernement de Justin Trudeau met sur le même pied la charia et les lois canadiennes. Mais en termes de droit matrimonial, en termes d'héritage, là, que dit la charia?
Ben, ça dépend. Parce que la charia dit, je pense que évidemment, ça revient aux hommes. Mais
ben
t'as
oui.
plusieurs pays, dont l'Algérie, dont le Maroc, plusieurs pays qui disent, écoute, voici la loi qui s'applique malgré la charia. Ça, il ne faut jamais oublier ça, parce qu'on a des redresseurs au niveau, disons, des successions, au niveau de plein de droits civils qui vont donner des droits aux femmes supérieurs à la charia. Mais on s'en va où avec ces prêts-là? Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'on va en savoir un peu plus. Il va y avoir un autre énoncé économique à l'automne 2024. Mais là, c'est la première fois où le théologien est un petit peu dépassé par la facture économique. Ça
nous
dépasse, Benoît. Écoute, même, il parle même dans la finance islamique de crédit leasing. Ça veut dire ça, d'après moi, la banque où ton prêteur reste propriétaire jusqu'à parfait paiement. Mais ils n'ont pas le choix de fixer un taux d'intérêt à un moment donné parce que l'économie mondiale fonctionne avec des taux d'intérêt. Mais Benoît, c'est fantastique. On va jouer dans un bac à sable. Ça, j'ai hâte de voir ça.
Okay.
Des millions de questions en vue.
Laïcité, la croix de la discorde dans un petit village de Corse?
Oui, ça, Benoît, c'est à la une du journal Corse Matin. où on dit, écoute, ils ont construit une croix au pied ou à l'entrée d'un village. C'est un village qui a 50 habitants, qui est dans les montagnes en Corse, donc il va falloir aller visiter ça. Ça s'appelle le village de Kashkara. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'en novembre 2022, le maire décide, il dit, ben moi, je construis ma croix à l'entrée du village, on est 50, tout va être beau. Mais il y a une citoyenne qui dit, non, vous pouvez pas, 1905, la loi 1905, séparation Église-État, vous pouvez pas construire une croix dans le domaine public. Alors, le maire réplique en disant, et écoute ça, Benoît, suivant la mémoire des anciens, il y avait une croix à cet endroit-là, il y a rien qui m'empêche de réparer cet endroit-là et d'y installer ce qu'il devait y avoir. Évidemment, Benoît, ça va finir devant les tribunaux. Ouais, et les tribunaux de Bastia vont écouter cette cause-là. Et puis, tu as l'historien Antoine-Marie Grazian qui a dit, il faut pas oublier une chose. En Corse, tout est une question de clan. Donc, est-ce que ça veut dire que le maire et la citoyenne ne sont pas du même clan? Hey, ils sont 50 dans le village, Benoît. Ah bon. Ça va être quelque chose aux élections municipales. Mais je trouvais ça fantastique. Ces litiges-là de croix, ça se retrouve devant les tribunaux en France.
Au Royaume-Uni, Alain, un élève musulmane qui perd son procès, dans quel contexte?
Ouais. Et elle est étudiante au secondaire et le règlement de l'école dit qu'il n'y a pas de prière musulmane, il n'y a pas de prière à l'école. 50% des étudiants sont d'origine musulmane. Elle s'adresse au tribunal pour dire, écoutez, on veut notre prière musulmane. La juge répond, et c'est fantastique, Benoît, la juge dit, je considère qu'une prière collective réintroduirait le risque d'intimidation, mais là, il faut que tu écoutes, Benoît, à l'égard des élèves musulmans qui ne veulent pas prier et qui pourraient être considérés comme moins pratiquants. Et c'est la première fois qu'un juge arrive et dit, écoutez, oui, l'islam existe. Oui, il y a des musulmans, mais il y en a qui veulent pas y aller à votre prière. Est-ce que vous allez les ostraciser? Et cette école-là, qui est une école dans un milieu défavorisé, qui a la meilleure amélioration en Angleterre, qui est dirigée par Madame Catherine Birbal Singh, elle a dit, écoutez, les règlements sont stricts. Écoute ça, vrai, Benoît, une vraie école. Interdiction de parler dans les couloirs. Uniforme, attribution d'heures de retenue au moindre écart, des repas végétariens, tout le monde ensemble, la laïcité va être respectée dans mon école. Et elle a dit ça aux parents, et les parents là, respectent. Et même la jeune fille, on lui a demandé, mais écoutez, t'as perdu ta cause, tu peux pas prier, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, j'aime mon école, je vais y rester.
Mais attends, laïcité, mais t'imposes un repas, un menu végétarien?
Fait que c'est ce qu'ils ont imposé.
Ouais, c'est pas de la laïcité, ça.
Ben, c'est qu'ils veulent que tout le monde puisse manger, puis que tout le monde puisse aller jouer dans l'assiette de l'autre, sans doute.
Ben non, tu peux manger ce que tu veux, puis c'est pas la religion qui va te dire si tu peux manger un sandwich au bacon ou pas.
Ouais, mais les autres, ils veulent éviter les divisions. Moi, je sais qu'il y a des problèmes
au niveau
des des arachides, ces choses-là, mais c'est végétarien.
Il n'y a pas d'allergie au bacon, ça n'existe pas. Parle-nous de Cardinal Lacroix. Cardinal Lacroix.
Oui, le Cardinal Lacroix, qui est invisible au Québec. Le Cardinal Lacroix, on sait que c'est le primat de l'Église canadienne. Et il a été identifié comme un potentiel agresseur dans un recours collectif. Il s'est retiré de toute activité publique au Québec, mais pas dans le monde. Donc, il était la semaine dernière juste à côté du pape François et il y avait encore la réunion du Conseil des cardinaux et il était là. Et il y a eu des communications avec le juge André Denis qui s'occupe de faire l'enquête préliminaire pour savoir s'il y a eu agression ou non et il n'a pas encore rendu sa décision. Donc, le cardinal Lacroix, si vous voulez le voir, c'est plus facile de le voir au Vatican et à Rome parce que là, il va être à côté du pape, mais on ne le voit pas à son diocèse de Québec. Et rappelons aussi qu'il a tout manqué les cérémonies de Pâques, qui sont la fête religieuse la plus importante chez les catholiques et les chrétiens.
Avant qu'on se quitte, Alain, en France, procès de la secte La Grande Mutation.
Oui, ça, c'est quelque chose. La Grande Mutation, ça a commencé en 2016. Là, le procès va commencer. Étienne Guillet, qui est le fondateur de cette secte-là, lui, il était un très grand chercheur en biochimie au CNRS, qui est le gros institut de recherche scientifique en France. Et lui, il avait déterminé, dans les années 2000, qu'il était comme... Ses cheveux étaient des antennes cosmiques qui lui permettait de parler aux extraterrestres.
Ben oui.
Et pour communiquer, à savoir si quelqu'un est bien ou mauvais, ben, il utilisait, comme le professeur Tournesol, là, il utilisait son, un pendule. Et lui, il guérissait les maladies. Donc, je vais vous guérir du cancer. Il a vraiment déraillé complètement. Il isolait les gens. Pour évaluer ton employeur, tu prenais ton pendule. Pour évaluer ici, tu prenais ton pendule. Tu n'avais plus besoin de la médecine. Le sida n'était pas une maladie transmissible sexuellement. Le sida, ça venait des extraterrestres. Alors, il était parti dans un délire. Il a amené des gens dans ce délire-là. Il y a des gens qui se sont suicidés. Et en 2016, on a décidé d'ouvrir un procès qui commence aujourd'hui en France. Lui, comme tel, il est décédé il y a 2 ans, mais on continue contre les 5 administrateurs parce qu'on dit que c'est de la médecine illégale, c'est une dérive sectaire totale où il y a des gens qui en sont mourus, il y a des gens qui ont dit parfait, il le dit, bon ben je suis plus mes traitements contre mon cancer, et ils sont décédés rapidement. Donc, c'est une secte, ce qu'on appelle la grande mutation, et moi je vois le gars avec son pendule, et on est jugé au coup de pendule, Benoît.
Parfait. Alain Pronkin, merci. À la semaine prochaine.
Merci. Bonne journée, Benoît.